l'invité de Radio Pont.
Nous avons au bout du fil Cyril Le Seul de la compagnie Naturelle qui se produira lors des Journées du Patrimoine à Jonzac le 22 septembre. Et donc il nous fait l'amitié de répondre à quelques questions sur son spectacle et sur les rapaces qui seront présents. Alors bonjour Cyril.
Bonjour à vous.
Donc, vous venez nous rendre visite dimanche prochain pour un spectacle de fauconnerie et d'exhibition d'oiseaux qu'on ne voit pas tous les jours.
Oui, tout à fait, avec aussi une volonté, on va voir si cela fonctionne, mais le but est de vous amener, on va dire, dans cette relation, dans le berceau de la fauconnerie avec... Vous transmettre avec une certaine émotion, on pourra dire, c'est à vous transmettre qu'est-ce que cette relation particulière entre l'homme et le rapace.
Oui, mais effectivement, parce que c'est quand même des animaux, enfin des bêtes que les gens n'ont pas l'habitude d'approcher de près. Donc on a toujours du mal à imaginer quel type de relation on peut tisser avec ces oiseaux, enfin surtout ces rapaces. Apparemment, il y a quand même des liens qui peuvent se créer, vous semblez en être la preuve vivante.
Effectivement, disons que le rapace a eu depuis de nombreuses décennies, presque siècles, presque millénaires, on pourrait dire qu'on est passé par toutes les phases. On a eu une phase déification, on a eu une phase respect, on a eu une phase ignorée, plus courte, assez rarement, mais tout de même, notre civilisation a énormément évolué. Aujourd'hui, l'urbanisation... Et le rapace est un petit peu hors vue aujourd'hui comparé à ce qu'il fut dans les temps anciens, on pourra dire. Et il y a eu une phase aussi nuisible, puisqu'il y a eu une phase où est-ce que les rapaces étaient décriés comme des tueurs, comme des êtres incroyables qui pouvaient attaquer des enfants, qui pouvaient faire les belles-mères aussi. Enfin, des choses incroyables. Alors parfois... concernant les belles-mères, ça pouvait être bien. Enfin, excusez-moi. Non, mais voilà, ça aurait été un mythe valable, quelque part. Mais en fait, non, quoi. Quelques chiffres, tout simplement. Un aigle royal, par exemple, 1,80 m d'envergure, dessert comme ma main, peut soulever uniquement son propre poids, c'est-à-dire 3,7 kg pour Wakan, par exemple. Alors, 3,7 kg... c'est pas un beau mâle sapiens, quoi.
Oui.
Si je puis me permettre.
C'est un petit chien.
7, voilà. Alors, bien sûr, tout de suite, des images sociétales
oui.
De ce qui nous entoure nous apparaît. Oh là là, qu'est-ce qu'à 3,7 kg, cette bête féroce va pouvoir...
voilà. Emporter.
Alors, en fait, pareil, comme je dis souvent, il suffit juste d'avoir une petite réflexion. Si l'aigle royal... attaquer les enfants, ou autres rapaces d'ailleurs, attaquer les enfants, les enfants qui n'ont pas de bonnes notes par exemple. Réfléchissons juste simplement, les rapaces étant les plus grands économisateurs d'énergie, ils se situent souvent proches de leur proie. C'est ce qui se passe dans la nature. Ils seraient à la sortie des écoles, quoi.
Oui.
Enfin, je veux dire, ça serait logique, c'est là où il y a le plus gros rassemblement d'enfants. Non. Il se trouve qu'ils sont en haute montagne, et puis en haute montagne, il y a plus de marmottes que d'enfants. C'est rigolo. Donc en fait, par logique même, non, le rapace n'attaque pas l'homme. Si quelconque déviance, il peut y avoir, éventuellement, c'est qu'il y a eu passage de l'homme derrière. C'est-à-dire que soit l'oiseau a été recueilli petit, imprégné, c'est-à-dire élevé à la main, soit il y a eu derrière un vécu de fauconnerie, et l'oiseau a peut-être dérobé ses sonnettes. Parce que nos oiseaux savent chasser, ils ont une certaine autonomie de vol, donc ils peuvent ce qu'on appelle dérober ses sonnettes, c'est-à-dire reprendre leur droit de rapace dans la nature, c'est tout à fait possible. S'il n'y a pas ce toucher, on pourra dire, dans la vie d'un rapace par l'être humain, il n'y a bien sûr aucun danger, il suffit juste d'aller vers une logique toute simple d'observation pour se rendre compte aussi que tout ornithologue digne de ce nom qui veut prendre une photo d'un aigle royal, je parle de l'aigle royal parce que c'est un oiseau de cœur pour moi, disons que passe un certain nombre de temps pour pouvoir, on va dire, obtenir le cliché en question et se rendre bien compte que dès lors où est-ce qu'il est détecté, en règle générale, ça dure pas longtemps, la présence de l'aigle, il s'en va tout de suite.
Oui, en plus, c'est vrai que les rapaces, apparemment, font quand même l'économie de mouvement. Ils utilisent leur énergie seulement à bon escient. Donc, ils ne passent pas apparemment des heures à voler inutilement.
Tout à fait. C'est-à-dire que il y a toujours un ratio. Encore plus les super prédateurs et grands prédateurs. Le ratio doit être tout simple. C'est que la proportion d'énergie donnée pour aboutir à l'obtention de nourriture doit toujours être inférieure à ce que la nourriture lui apporte. C'est assez logique, mais c'est un ratio très simple. Donc l'économie d'énergie est là, mais il y a aussi une autre raison à cela, c'est leur capacité. Ils ont des capacités hors normes pour être soit à l'affût, soit être en vol comme les faucons par exemple, avec rapidité pour aller vers une chasse. Mais de toute façon, l'affût reste de mise puisqu'ils voient environ 18 fois mieux que nous. Ah oui. Donc forcément, la vue est décuplée, que nous sommes à 25 images secondes en moyenne. C'est en train un petit peu d'évoluer cela avec nos outils multimédia aujourd'hui, mais on voit toujours à 25 images secondes en termes de raisonnement, de réflexion. Les rapaces sont à 86 images secondes.
Oui, ils sont beaucoup plus rapides que nous. Hein.
Donc, quelque part, même avec une réalité augmentée, même avec tout ce que veut faire certaines personnes à l'être humain pour booster un peu la machine, on pourra dire, de cet animal particulier, le rapace, il est déjà en haut débit, quoi. On ne rivalise pas. Donc, quelque part, c'est ce qui fait qu'ils sont posés, c'est ce qui fait aussi qu'ils sont en économie d'énergie, effectivement. Après, ils utilisent les courants ascendants, donc encore une fois, ils économisent leur énergie pour les planeurs. Et les courants ascendants, ils peuvent les employer aussi par plaisir, tout simplement parce que les ailes sont portées vite. Et surtout, ça a toujours une utilité dans la nature, même s'il y a un côté grisant, je peux le voir dans leurs yeux. Quand il y a le courant chaud, comme on dit, on voit tout de suite le plaisir qui s'affiche. Et en fait, il y a aussi une notion de délimiter le territoire, de surveillance. Ça, c'est comme pour nous, il y a un moment donné, le mâle, il se montre auprès de la femelle. Donc, il y a des belles volutes aériennes qui se passent, qui est assez spectaculaire à certaines périodes. Et tout ça, tout déplacement, toute dépense d'énergie, finalement, ça, ils vivent de manière innée, je dirais presque en harmonie, en osmose, avec leur environnement qui est la nature. C'est pour ça que je me permets, à force de vivre avec eux, il apparaît comme une évidence. Qu'à un moment donné, je pense qu'on a des petites choses à apprendre d'eux, en fait. Moi, c'est vrai que pendant ce spectacle, je me fais la voix off de cet univers pour le vivre tous les jours. Voilà, je suis entièrement avec mes oiseaux chaque jour. Donc, forcément, je parle plus la langue des rapaces, finalement, que la langue des sapiens. Et parfois, la transition, elle est un petit peu rude parce que malgré leur statut de grand prédateur, en fait, c'est un monde très candide. C'est un monde qui est vraiment très subtil et candide. Et en même temps, on ne se rend pas compte, mais ces petits êtres, ils ont de grandes choses au niveau des émotions, au niveau des palettes d'émotions, sans faire d'anthropomorphisme. Mais finalement, on n'a pas grand-chose à leur envier, quoi.
Ah oui, ça, effectivement, les gens sont très loin de l'imaginer. Et les oiseaux ont des émotions, comme la plupart des autres bêtes. Mais c'est vrai qu'ils ont un œil qui est parfois difficile un petit peu à appréhender et un regard tellement particulier qu'on a souvent du mal à imaginer ce qu'ils ressentent. Vous les ressentez, ces émotions-là ?
En fait, hein, quand on connaît nos oiseaux, on sait, hein, au moins de coup d'œil, où est-ce qu'il en est. Comme je dis souvent, enfin, pour ma part, voilà, je suis à l'oeuvre pratiquement en temps réel. Je vois tout de suite, même un rapace sauvage, même tout oiseau finalement, tout rapace, je suis pratiquement en lecture d'où est-ce qu'il en est. Comme on se verrait, je me dirais, tiens, aujourd'hui il va bien, aujourd'hui c'est un peu bougon, enfin, aujourd'hui voilà, il a froid, enfin voilà, des choses très simples de l'homme qui analyse aussi, hein, à sa façon, dans le quotidien, l'état de son collègue, l'état de ce qui se passe autour de soi. C'est exactement pareil, en fait.
Ouais, mais ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai que l'oiseau et le rapace ont quand même eu la réputation d'être assez impassibles. Les gens ont beaucoup de mal à lire un petit peu ce qui se passe chez eux.
Tout à fait. Il y a aussi une image que les personnes ont. Souvent, c'est forcément cette fierté. Tout de suite, ça renvoie. On a notre propre miroir d'homme qui s'identifie à autrui, toujours. Et en fait, tout de suite, fierté, tout de suite. Il y a aussi chez les grands prédateurs, les requins en font partie d'ailleurs. Je ne connais pas bien cette espèce, mais c'est fascinant tout de même cet univers, surtout ces grands prédateurs marins. Et je suppose que les personnes qui travaillent avec, il faudrait poser la question, hormis le stade de chasse qui fait qu'il y a, un œil de chasseur qui ressort où là, il n'y a qu'une pensée focale, hormis cela, je me doute qu'il y a plein d'émotions qui en ressortent entre guillemets dans l'œil, dans plein de choses, dans le comportement. Vis-à-vis du rapace, il est plus expressif, malgré cette petite expression supplémentaire qui est en fait les plissements de l'œil, qui est en fait plein de choses au niveau comportemental qui se mettent en œuvre, parce que finalement ils sont pas tout le temps en mode chasse, loin de là. Ils sont souvent en mode économie d'énergie, ils sont en mode aussi prendre le soleil pour prendre des vitamines ou économiser pour la neige quand ils sont en état d'économie. On ne se doute pas, mais en fait il y a plein de petites choses qui se dessinent dès lors où leur bien-être ressort. Et c'est vrai que les personnes voient souvent les rapaces, bah finalement soit on les surprend à des endroits, donc ils ont l'œil un peu méfiant, soit on les voit, mais en même temps ils sont très passifs, on pourra dire, puisqu'il n'y a pas forcément un échange. On comprend rarement aussi leurs valeurs, leurs règles, on pourra dire. Nous, on a des règles, la bienséance, bonjour, voilà, des choses très simples, au revoir, des choses qui nous stigmatisent à quelqu'un de sociétalement présent, on pourra dire, à l'autre. Chez le rapace, c'est pareil. Il y a des codes, il y a une façon d'aborder, d'approcher, de parler. Le territoire est très important. C'est une chose que le rapace n'a pas oubliée. C'est-à-dire que la notion de territoire est très, très importante. Donc, encore plus décuplée chez les super prédateurs, par exemple, comme les aigles royaux. Comme je dis souvent, on ne prend rien à un aigle et on fait très attention à comment on arrive dans son territoire. Donc, je viens chez quelqu'un. Je viens pas là en pays conquis. C'est mon oiseau, j'arrive, quoi. Tac, tac, boum. Non. Là, c'est quelque chose qui peut heurter l'oiseau. On pourra se dire, oui, bah, il peut dominer, machin. Il peut le maîtriser. De toute façon, il ne dira rien. Et en fait, pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est peut-être valable chez les buses et encore les faucons. Je parlais de dérober des sonnettes. Donc, l'oiseau peut tout de même partir, hein, si quelque chose ne lui plaît pas, quand on respecte, hein, aussi son état d'être. Mais à un moment donné, chez l'aigle, ah bah là, c'est sûr que je ne parle pas dans la nature. Je parle bien en tant qu'aiglier, dans le rapport d'aiglier avec son aigle. Ah, si vous faites trop d'impair, il va vous rappeler à l'ordre. Hein. Trek va vous jeter des cerfs, jeter le bec, enfin, il va s'exprimer. Il va vous dire, là, ça va pas du tout ce que tu fais. On n'est pas sur la même, tu comprends pas. Donc il va faire comprendre. Et c'est un super prédateur, donc il comprend pas non plus la conciliation à l'autre. De manière dans la notion de dominant-dominé.
Et oui, parce que en plus ils ont pas de prédateurs au-dessus d'eux. Les aigles, ils sont au sommet de la chaîne en fait.
Bah, j'ai mis 5 ans à comprendre ça pour ma part, hein, vis-à-vis de Wakan par exemple et de mes aigles, hein, de l'aigle royal en général. Après avoir tâtonné, parce que j'étais pas encore dans la lecture totale de leur comportement et dans la lecture totale de leur langue. Donc, je parlais pas encore leur langue, on va dire. Donc ils me regardaient là de dire mais qu'est-ce que tu fais là, on comprend pas quoi. Donc j'ai connu ça, il y a pas de souci. Je suis pas né de manière innée à parler le rapace. Donc ça a mis un petit temps. Mes élèves m'en excusent, mais j'ai mis du temps à comprendre. Donc ils m'ont regardé pendant un petit temps en me disant mais en gros ça va pas du tout comme tu nous parles. Et en fait je les comprends après avec le recul. Vraiment, 5 ans j'ai compris un truc. L'aigle royal, il est super prédateur. Alors j'ai fait un petit temps exprès pour bien comprendre que l'homme, il s'est mis en super prédation, en état de super prédateur dans la nature. On est d'accord, hein, il domine tout, il gère tout, il a tout entre ses mains là, il maîtrise la nature. S'il veut, il détruit, s'il veut, il fait ce qu'il veut quoi. Enfin, dans sa tête. Hein. Et en fait, puisqu'après il y a les éléments, mais ça c'est un autre sujet, mais il y a quand même des choses qui rappellent à l'ordre, mais comme ça met du temps, il y a un petit oubli, une petite amnésie de passage sur la domination des puissances. Mais ça, c'est autre chose. Après, on va rester sur le monde animal. L'homme s'est placé là. Mais voyez bien qu'en termes du quotidien, à mon humble avis, chacun voit sa place en tant qu'être humain. Mais pour ma part, je prends juste conscience d'une chose, c'est qu'en tant qu'être humain, comment faire pour raisonner sans dominant-dominé?
Voilà. Oui, d'égal à égal, pratiquement.
Et déjà, égal à égal est une notion de domination, puisqu'on est égal. C'est-à-dire qu'on a déjà, nous, en prononçant cette phrase, une notion de possibilité de dominant-dominé. Il faut juste imaginer qu'on nous retire la domination. On nous retire complètement. Ça ne nous vient même pas à l'idée, le mot égal. On retire ça. Et ben en fait, l'homme ne sait pas vivre puisqu'il n'a pas de structure réelle innée en termes d'équilibre. Sa seule structure, c'est l'eau. Si on réfléchit bien, Après, je demande que ça, est-ce qu'on me contredise ? Mais si on regarde bien, c'est son espace qui détermine qui il est, sa place au sein de lui-même, sa société et tout ça. Mais c'est toujours en fonction de l'autre. Ah non, mais un être humain tout seul dans la forêt, tout seul, sans repère. Un aigle, on le met comme ça, c'est sa vie quotidienne. Il est en équilibre. Et dernière chose, il va pas tuer toutes les marmottes sur son territoire, quoi. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il peut le faire qu'il va le faire.
Oui, il va gérer
intéressant.
Ses ressources. C'est-à-dire
qu'à un moment donné, il va même pas gérer. Il va prendre ce qu'il a besoin, sans faire de réserve. C'est le roi. Chaîne alimentaire tout en haut, pourquoi on ferait des réserves ? L'être humain, il fait que ça, hein. On a peur, on fait des réserves, mais on n'est pas des vrais prédateurs, nous. On est des petits joueurs dans ce monde-là, si je puis me permettre. Pourquoi l'homme fait autant de réserves? Pourquoi l'homme a besoin d'afficher sa domination? Regardez bien, les belles voitures, tout ce qu'on veut. Mais voilà, il y a juste une réflexion à amener, à mon humble avis, une petite humilité à apporter, c'est qu'on n'est pas des grands prédateurs. Donc, est-ce qu'on n'écouterait pas les vrais grands prédateurs, les super prédateurs, ce qu'on appelle ceux qui n'ont pas de dominant? Ceux qui ont juste finalement dans leur quotidien une possibilité de conflit de territoire avec d'autres. Et puis finalement un quotidien où est-ce qu'ils disputent de temps en temps avec sa femelle parce qu'il a ramené un lapin qui ne convenait pas, quoi. ça reste toujours immuable, hein. Chez le rapace, la femelle est un tiers plus grande que le mâle. Quand t'as dit on mange à 19h, on est à l'heure, voilà. Il y a des signaux d'alerte, on écoute, on n'écoute pas, on pense que c'est faux, on pense que voilà, d'un point de vue climatique, je prends pas position par rapport à ça, je ne suis pas un scientifique. J'observe juste que, je fais juste cette petite parenthèse, j'observe juste que depuis maintenant 6 ans, que mes oiseaux lisent moins bien le vent qu'avant. Et j'observe que le vent a changé, ça fait 6 ans, où j'ai vu dans des zones... habituel, etc., où les oiseaux ont l'habitude des vents, où j'ai vu dans leurs yeux, où j'ai vu à un moment donné qu'ils venaient vers moi, je comprends pas ce qui s'est passé, je comprends pas où est-ce qu'on est. Alors bien sûr, c'est schématique, mais en fait, j'ai juste vu qu'effectivement, il y avait un changement dans les vents. Il y a quelque chose qui se passe. Je pense qu'à un moment donné, il y a une petite réflexion à mener sur la position de l'homme sur la planète. Les grands, grands prédateurs, ils ont peut-être des choses à nous dire, plutôt que de les classer nuisibles et de les chasser, comme on a fait à une période. Aux États-Unis, vous avez des Amérindiens qui font des cérémonies pour excuser l'homme d'avoir fait des massacres entiers de Buzakerous, par exemple, de Buz de Harris. L'homme n'a jamais aimé les grands prédateurs sur la planète. Ils ont toujours vu en concurrence, la preuve que c'est pas un super prédateur. Quand on est au-dessus, pourquoi on détruirait l'autre ? Je veux dire, on le laisse vivre, on le laisse respirer, il fait sa vie, bah tant mieux. Enfin, de quoi on a peur ?
Ça a l'air d'aller mieux pour lui quand même aujourd'hui par rapport à avant.
Alors oui, bien sûr, mais ça va mieux parce qu'il est en plus petit nombre. Au Moyen-Âge, il y en avait en plaine, hein, il y en avait en forêt, des aigles royaux. Je prends l'exemple des aigles royaux parce que c'est une espèce que j'affectionne particulièrement. C'est juste que son territoire a diminué, il est moins présent.
Oui, ça, on ne sait pas, effectivement. Moi, je ne savais pas, effectivement, qu'il était beaucoup plus présent.
Au Moyen-Âge, oui.
Ouais, ouais.
Après, aujourd'hui, bien sûr, heureusement, depuis la Convention de Washington, protège tous les rapaces. Donc, heureusement, les rapaces sont tous protégés. Et, bah ouais, il y a des loups, il y a des ours, il y a des lynx, il y a des aigles. Et ouais, qui est là et qui est peut-être dans la chaîne alimentaire, pas forcément au-dessus de tout ça, en fait.
Ouais, mais c'est vrai qu'il a du mal. Même le loup, hein, c'est vrai qu'en ce moment, il a pas bonne presse. C'est vrai que les super prédateurs ont un petit peu de mal, hein.
Après, voilà, c'est un sujet... moi, je mets plus sur le terrain philosophique pour faire comprendre un petit peu qu'à un moment donné, l'humain, il a peut-être quelque chose à apprendre de la planète pour vivre avec.
Ah bah, surtout aujourd'hui.
Pour ma part, voilà, vivant avec ces grands prédateurs, je le vois très clairement. Voilà, moi, je suis en stage de réinsertion. et c'est vrai que voilà, le monde de la fauconnerie a traversé ma vie comme une vocation, puisque je voulais faire ça depuis le plus jeune âge. J'essaye de donner des images un petit peu marquantes pour faire comprendre qu'est-ce que cet univers si particulier des rapaces.
Oui, donc du coup, ce sont des messages qui passent dans votre spectacle, je suppose.
Exactement. Le but, c'est d'amener les personnes, d'une part, à connaître qu'est-ce que cet art. On voit de très beaux spectacles. Après, on ne se doute pas de ce qu'il y a derrière, de comment on prépare. Il y a beaucoup d'idées reçues, parfois. Il y a des petites choses qu'on s'imagine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des beaux spectacles, très beau spectacle.
Visiblement, non seulement en allant vous voir, on va apprendre pas mal de choses effectivement sur les aigles et les rapaces, mais on va aussi profiter de messages philosophiques et spirituels qui devraient nous enrichir également.
Oui, après, je reste tout de même dans une certaine simplicité. Je ne déborde pas forcément énormément sur la notion spirituelle. Je laisse les personnes plus après à leur propre intériorité, on pourra dire. Par contre, ouais, les messages clés, je pense, sont là, et mes propres compréhensions. Moi, je partage aussi mon évolution. Je vous ai dit, hein, j'ai mis 5 ans. Wakan, il a 12 ans. Donc, j'ai mis 5 ans à comprendre. Ça veut dire que dans tout notre vécu avec mon Wakan, j'ai fait des erreurs. C'est-à-dire, quand je dis qu'on a des choses à apprendre d'eux, je suis le premier. Je suis l'élève de mes élèves.
Oui, vous êtes une sorte de transmetteur qui va à son tour transmettre au public des enseignements purs et naturels, alors.
Oui, ça, ce sont des mots un petit peu, voilà, je laisse dire. Le but, c'est de partager déjà un art, une relation. Je pense garder depuis ces longues années, j'ai gardé un petit peu une graine à l'intérieur, malgré... parce que c'est un monde très particulier, vous savez, être professionnel de la fauconnerie, c'est pas... j'ai jamais fait de concession sur la sécurité de mes oiseaux. Voilà. Pour tout dire, je suis resté en éthique sur quelque chose qui va pas pour lui, je le fais pas.
Oui, c'est pas toujours le cas de toutes les compagnies de fauconniers, d'après ce que j'ai compris, après m'être enseigné.
Je ne suis pas là pour ouvrir une polémique.
Oui, oui.
Je suis juste là pour dire ma voix. Comment je le vis et quels sont mes choix. C'est pour ça que parfois, vous savez, j'ai des personnes qui ne l'ont pas compris, j'ai des personnes qui m'ont demandé des spectacles, tout ça, j'ai dit non, ou des raisons très simples, voilà. Et ces personnes disaient oui, il est négligent, il est ceci, il est cela, ou pas, enfin, c'est pas négligent, mais un peu hautain, ou des choses comme ça. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'à un moment donné, je regarde ce qui peut être conciliable, je regarde ce qui peut être fait, je regarde pour qu'après aussi, quand je rentre à l'établissement, je puisse décontracter mon élève, hein, mon oiseau, mon petit gars, qui puisse être décontracté en sas de transition de ce que je lui ai demandé, pour trouver cet équilibre, pour lui, pour nous, pour tout ce qui se passe. Et puis en fait, à un moment donné, je vois que l'équilibre, je ne pourrais pas le rendre, parce qu'il y aura quelque chose qui ne va pas. Et donc du coup, je refuse, pas forcément toujours compris. Puis quand je dis aussi « quoi qu'il en coûte », c'est que mon établissement aussi vit, hein, on est sur la même planète, hein, on a besoin de remplir le caddie, la nourriture des oiseaux, tout, la médication, enfin le matériel, ce qu'on développe de manière assez poussée, leur bien-être au sein de l'établissement. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on fait le choix, on dit non, c'est aussi un coût qui je refuse. Voilà, ça m'est arrivé de refuser, pour vous donner quand même une petite idée, un mensuel assez conséquent pendant 3 mois en tant que responsable, pendant 3 ans, pardon, en tant que responsable, ça m'est arrivé, pour ces raisons-là, après avoir bien réfléchi et tout ça. Voilà, ce sont des réels choix de vie, et c'est pour ça que je pense que à travers nos spectacles, finalement, le but, c'est d'aller vers la transparence vraiment de tout ça. Comme on est pareil, puis à un moment donné, j'ai pas envie de vous leurrer, comme on leurre un faucon, n'est-ce pas? J'ai pas envie de vous leurrer. J'ai envie de vous faire partager cette petite graine qui fait que je trouve magique cette relation. Je suis, pour ma part, dans cette vocation de fauconnier. Parce que je me suis posé tellement de questions. J'ai tellement de respect pour eux et tellement de respect pour la nature. Je me suis posé tellement de questions que du coup, je pense que la plupart des personnes qui ont certaines a priori, je peux les comprendre. Ou même des personnes qui ont des points de vue très affirmés suite à avoir vu des choses, comme vous citiez un petit peu. Je peux les comprendre, en fait. Je cherche pas à convaincre personne, je cherche juste à dire, voilà l'essence. Et quand on reste avec une certaine éthique, c'est un mot qui est passé de mode, ça, mais... ça peut être super beau, en fait. On est les élèves de nos élèves, et il faut jamais quitter, à mon humble avis, d'appliquer cette humilité, de se dire on n'est pas au-dessus d'eux. Moi, je dis souvent, la relation, c'est pas papote. Voilà, maître, fauconnier, vous savez, ça vient du Moyen-Âge, ça, la domination. Je suis maître de pas grand-chose. Déjà, de moi-même, ça va être pas mal.
Oui.
c'est déjà un gros boulot. Après, le reste, on verra. Quand on arrive à la maîtrise de soi-même, on n'a plus trop envie de maîtriser les autres, puisque, souvenez-vous, super prédateur, dominant-dominé, maîtriser quelqu'un, pourquoi faire, enfin bon, voilà, c'est un autre sujet, mais tout ceci étant dit, à un moment donné, pas papote, parce que depuis la nuit des temps, on est dans les anciennes traditions, on appelle le fauconnier le père des oiseaux. En fait, on a oublié ça, mais c'est les pères des oiseaux. Le côté jalon, parce que ce sont nos élèves. Alors, on pourrait dire, oui, ils n'ont pas besoin de nous, tout ça. La base de la fauconnerie, la base, hein, l'essence, c'est la chasse au vol. C'est en fait l'alliance de l'homme et l'animal. Bien sûr, il y a un but, la chasse. Cette alliance a été possible parce qu'à un moment donné, il y a cette notion de deux opportunistes. C'est-à-dire qu'il y a quand même un point commun avec le rapace et l'homme, qu'ils sont vachement opportunistes. Ça, l'homme, il n'a pas oublié ce truc-là. Cet instinct-là, il n'a pas oublié ça. Donc, du coup, ça marche plutôt bien. Si on peut ne pas travailler, c'est cool. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, c'est quand même une sorte de synergie. Hein.
C'est normal. Parce que c'est le côté animal qui est normal. C'est pas normal ce qu'on dit là. Croyez mes petits gars, ils sont là. Et moi, je bouge pas pour rien. Moi, je m'en fous, je chasse quand je veux, je peux avoir ce que je veux, t'as intérêt à ce que tu me présentes, que ça soit bon, quoi. À un moment donné, tu sais, plus on les écoute, plus c'est des enfants gâtés. Hein. Donc l'origine, c'est ça, la chasse au vol. Plus on avance avec eux, c'est un petit peu comme dans tous les arts, je pense, on devient maître déjà, réellement, les Japonais disent, au bout d'un certain nombre d'heures de pratique, tout simplement. Et plus on comprend ça, plus on comprend qu'on est maître de pas grand-chose et qu'en fait, le seul ennemi, c'est nous-mêmes parce que finalement, on a besoin de dépasser des choses, nous, pour accéder à ce que l'on souhaite. Voilà, la notion de papapod vis-à-vis des oiseaux reste importante. Et ça, si on ne l'oublie pas, bah, on est au service. On est au service des oiseaux. Et...
C'est quelque chose qui va certainement transparaître dans votre spectacle de dimanche prochain. Vous venez avec donc Wakan, l'aigle royal. Est-ce qu'il aura des petits amis avec lui?
Alors oui, effectivement, nous venons avec nos 14 petits bonhommes. Vous aurez 12 sur perche présentés. Avec Bus de Harris, Bus à queue rousse, vous allez avoir Petit Loutz, qui est la mascotte, petite chouette effraie, qui sera présentée à un moment donné, je dis pas quand. Il est dans son refuge, Petit Loutz. Il n'aime pas voir les gens, il reste dans son refuge. Vous avez un aigle des steppes, donc Grechka, qui sera là. Un faucon pèlerin qui viendra, donc je prendrai Nekmet, donc un faucon pèlerin, parce que j'ai aussi un faucon lanier à Jeep, mais là ce sera, je pense, Nekmet en présence. Et puis vous verrez aussi 2000 en noir, Milor et Milady, donc toute la famille réunie, dans une ambiance. Nous avons un décor, aussi qui a une histoire, hein, qui a une âme, hein, et vous allez pouvoir voir un petit peu dans tout cet univers. L'idée, c'est de vous faire partager, comme je vous disais, tout simplement une rencontre. Vous venez rencontrer Kefren, Milou, au-delà même que ce sont deux bus de Harris, au-delà même que, de par son état zoologique, Nekmet est un faucon pèlerin, est une femelle faucon pèlerin, Wakan est un aigle royal, Grechka est un aigle des steppes, on est d'accord. Mais après, c'est un petit être. Grechka, c'est Grechka, et Grechka, par exemple, c'est pas Robin, et Robin, c'est un autre aigle des steppes qui ne sera pas en présence. Mais Grechka, c'est pas Robin. C'est comme nous, on est différents.
Ah ouais, bah ça, je pense que ça sera quand même très intéressant et assez passionnant au niveau de la découverte. Donc, je crois que c'est au parc des expositions, donc à Jonzac.
Oui, nous sommes à Jonzac, je peux vous le garantir.
Je crois que votre spectacle est prévu à 15h, même si les exhibitions, d'accord, et les déambulations auront cours toute la journée.
Oui, il y a Wakan, je suis avec une présentation sur le camp, comme on dit, de Wakan, donc qui ne sera pas chaperonné. C'est-à-dire que vous allez avoir vraiment un aigle qui va vous parler, qui va réagir.
Ah.
Et ça, c'est intéressant. Et donc, vous savez, le chaperon, traditionnellement, que l'on met sur la tête de l'oiseau, du faucon, essentiellement, et de l'aigle, logiquement. Pour ma part, voilà, il n'y a pas besoin. Wakan, il connaît le chaperon, j'ai respecté, mais aujourd'hui, si je lui mettrais, il me ferait la tête, enfin, il me ferait la gueule pendant un mois, parce que ça fait tellement longtemps. Mais en fait, non, Wakan, on discute, il n'a pas besoin. Le chaperon est un objet qui est intéressant dans un sens vis-à-vis, mettons, de Nekmet, ma femelle faucon pèlerin, pour donner un exemple. À chaque fois que je sors le chaperon, ils sont contents, parce qu'ils se disent « Ah super, on va voler !» Il faut que cet objet devienne un gage de vol et de plaisir. parce qu'en fait, c'est pour leur sécurité. C'est pour faire en sorte que l'oiseau reste calme au gant. On va chercher notre oiseau sur perche, ce qu'on appelle, ou au bloc. On met le chaperon et on va à l'endroit de vol. Mmh. Et arrivé à l'endroit de vol, on déchaperonne. C'est pour faire en sorte que l'oiseau reste calme parce que le faucon a le battement cardiaque plus élevé que l'aigle, par exemple. Et quelque part, lui demander de se contenir tout ce temps-là, alors qu'il y a l'impatience, parce qu'ils sont impatients, ça se casserait les plumes par impatience. Et en plus, le vol se déroulerait de mauvaise manière parce que l'oiseau ne se serait pas détendu avant de démarrer le vol. On fait toujours, il faut que l'oiseau s'ébroue traditionnellement avant de lâcher son faucon pour qu'il se détende. S'il ne fait pas ça, il partira avec la queue, ce qu'on appelle donc le balai, un petit peu plié vers l'arrière et donc du coup avec un stress, il va partir avec et à ce moment-là, le vol se déroulera de mauvaise manière, c'est certain, du moins ne sera pas joli. Parce que l'oiseau va devoir se détendre en vol. S'il n'y a pas le vent qu'il faut pour qu'il monte, il ne pourra pas se détendre à certaines hauteurs. Donc, il va rester en bas. Il ne va pas s'amuser pareil. Et ce serait une erreur de ne pas le faire. Donc, cet objet est tout de même intéressant. Mes wakan, il n'y en a pas besoin. Mes aigles n'en ont pas besoin parce que on se comprend, on discute. Et quand je dis à wakan, bah, pas maintenant, ou parfois il est fâché. Parfois, il me dit, il y a une cause. Il dit, je veux y aller, moi. Attends, on va rester un peu avec les gens. Alors, du coup, vous verrez, il fait des bêtises, du coup. C'est la bêtise ultime s'il me retire mes lunettes. Hein. Ça, il sait qu'il n'a pas le droit, ça. Et sinon, il fait des coups de bec partout. Voilà. Donc, il y a des endroits précis. Il sait très bien qu'il n'a pas le droit.
Ah, il est assez facétieux, quand même.
Ah, mais on ne se doute pas de la... Je vais vous parler de subtilité, vous voyez, de finesse. Et on se doute pas, ouais. Parce qu'effectivement, il va commencer à un endroit où il sait très bien que là, c'est pour me dire, bon, j'y vais, j'en ai marre. Et puis après, il va commencer à chercher, puis il va faire vraiment les endroits qu'il faut pas pour faire exprès, en fait. On peut réagir. C'est-à-dire, non, Wakan, t'as pas le droit. Puis là, il va faire le fâché, outré. C'est-à-dire, attends, tu m'écoutes pas. T'es gentil, mais pourquoi je t'écouterais, quoi. Et le Wakan qui va me dire, quand est-ce qu'en général, c'est toujours lui, d'ailleurs. Mais ça, faut pas le dire. Faut quand même pas tout dire. En vérité, je maîtrise mon aigle. Mais non, en vérité, c'est Wakan qui me dit quand est-ce que, où je dois aller, ce que je fais, enfin, voilà. C'est Wakan qui me dit tout. Mais ça, faut pas le dire.
C'est lui le vrai patron, en fait, de la compagnie.
En réalité, je vous doute pas, mais en fait, j'appartiens à Wakan. Mais oui. Ils sont possessifs, je vous ai dit, hein. Tout s'inverse, hein. On se rend pas compte, mais j'appartiens à Wakan. Wakan vit comme, on va dire, comme un petit peu en tradition, comme en Mongolie. Bien sûr, il a son espace extérieur, mais il vit dans la maison. Il a son grand tapis dans le salon.
Ah oui, comme un animal familier.
Et il est adorable, comme en Mongolie. Il tolère les enfants sur son tapis, mais il ne tolère pas les adultes. Mais il tolère les enfants, ce qui est énorme au niveau de son territoire. Déjà, c'est énorme. On ne se doute pas. Et en fait, c'est comme en Mongolie. Voilà. L'aigle vit avec la famille.
Ah, c'est étonnant quand même. Hein.
Ça fait partie un petit peu des petites choses que je vous partage, qui sont, comme je vous ai dit, en transparence. Quoi. Ce que vous allez voir en spectacle et le respect affiché, ça, voilà, c'est un petit peu l'image de marque. Bah, en vérité, c'est pas du spectacle. Quoi. Enfin, c'est vrai. Quoi. Vous remarquerez d'ailleurs, il y a des personnes, ils disent, ah, ils parlent à ces oiseaux, c'est du spectacle. Mais vous remarquerez qu'en fait, les gens, ils buguent au moment où ils se rendent compte que je parle à mes oiseaux quand je coupe le micro. S'ils ne m'écoutent pas, je dis « Kéfren, hé, oh, il y a des gens, allez. » Voilà quoi. « Kéfren, m'écoute. » Voilà quoi. Encore, je suis médisant. Kéfren était basculé dans les mauvais élèves. Vous verrez, il est devenu un bon élève. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Il devient... Mais voilà.
Je pense que nos auditeurs devraient être assez impatients de découvrir cette relation privilégiée que vous avez avec vos oiseaux et puis de découvrir ce spectacle qui a l'air quand même de sortir de l'ordinaire aussi.
Oui, ouais, c'est un petit peu ce que effectivement les retours que nous avons du public, oui, c'est ça. Souvent les gens sont touchés effectivement, puis c'est les retours, ouais, que nous avons. C'est cette différence. La différence est positive.
On vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé, cette interview qui était vraiment très, très intéressante. Et puis on donne rendez-vous à nos auditeurs donc à Jonzac le dimanche 22 septembre pour ce spectacle à 15h qui devrait les étonner.
Oui, et puis j'en profite. profite, parce que je ne suis pas forcément très féru de ce genre d'outils, mais on est à une heure internet et de réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre donc, sur le site internet www.naturenature-6ailes.com et n'hésitez pas à aller sur Facebook nous suivre ou sur Instagram par exemple. Vous verrez, il y a plein de surprises, il y a une grosse création. Voilà, ça va pas aussi vite que je voudrais, mais c'est une création qui prend du temps parce que j'ai que deux mains et que j'ai 28 oiseaux et que c'est voilà. Et ça prend énormément de temps et mon équipe est surtout là pour me seconder en déplacement ou en mon absence. Mais en fait la machine tourne avec mes deux mains, donc il y a voilà. Mais je suis sur une grosse création avec des personnes vraiment talentueuses. Et je cite d'ailleurs Bastien Sablé, si vous suivez son travail, c'est quelqu'un vraiment d'impressionnant. Vous pouvez retrouver Chouruc sur le clip de Midi sur Novembre avec Louane et Julien Doré.
Ah, c'est le Grand Duc.
Voilà. Oui, c'est ça, avec Monsieur Chouruc.
Oui.
Mais on s'en occupe, hein. Il est devenu un peu. Mais on s'en occupe.
Oui, oui, ça va et devenir une célébrité.
Non, on s'en occupe. Comme les copains, quand même. Mais en attendant, voilà, vous avez plein de choses qui sont aussi à venir en préparation et c'est avec plaisir de vous retrouver pour ce spectacle naturel qui va, j'espère, vous transporter dans un autre univers.
Ah ben oui, je pense que c'est le genre de choses qu'on voit pas souvent dans la région, donc je pense que c'est vraiment un spectacle à ne pas manquer. Ben, merci beaucoup, on vous donne rendez-vous donc dimanche prochain alors.
Avec plaisir, merci beaucoup.